C'est en Italie, au pied des Alpes. Il faut repérer les points d'accroche, les prises possibles. Plusieurs hommes regardent cette montagne de tout près, comme s'ils devaient en faire le portrait précis. C'est qu'à la suite d'un tremblement de terre, la roche a changé, s'est ouverte. C'est une série du photographe Grégoire Éloi, intitulée « La faille ». Vous êtes bien sur France Culture et nous sommes ensemble jusqu'à 13h50. Avant de nous pencher sur d'autres failles en Italie, arrêtons-nous à Biarritz où se tient le 45e G7. Les chefs des États des États-Unis, du Canada, de la France, du Japon, du Royaume-Uni, de l'Italie se réunissent ce week-end et jusqu'à lundi autour du thème suivant, la lutte contre les inégalités. Déjà en 1999 et en 2005, les objectifs affichés des mêmes sommets étaient d'en finir avec la pauvreté. Et aujourd'hui, on pourrait se poser la question de la manière dont ces chefs d'État réunis vont parler des inégalités, les définir, trouver des solutions ce week-end. On peut se poser la question alors que les politiques migratoires, fiscales, sociales de la plupart des pays présents ne laissent pas vraiment penser qu'au niveau national, la lutte contre les inégalités est déjà en marche. Tout cela dans un contexte de prise en compte tardive des ONG sur cette question, dans un contexte aussi assez tendu alors qu'un contre G7 a lieu à Irune à Hendaye et que 17 interpellations ont déjà eu lieu depuis hier soir.
Le magazine du week-end, Émilie Chaudet.
Et pour en parler, nous sommes avec Clément Sénéchal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole climat de l'ONG Greenpeace. Greenpeace qui a d'ailleurs décidé de boycotter le G7. On reviendra sur cette décision au cours de cette émission. Avec vous pour discuter au téléphone, François Dubet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directeur de recherche à l'EHESS et professeur à l'université de Bordeaux 2. Et enfin, notre troisième invité, lui aussi avec nous par téléphone, c'est Maxime Combe. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et porte-parole d'ATTAC, association, je le rappelle, pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne.
Nous avons beaucoup progressé pour réduire les inégalités entre nos pays. Et nous nous en sommes donné le cadre avec l'agenda 2030 pour le développement. Mais ce combat n'est pas derrière nous. Il est loin d'être achevé. La richesse par habitant est 50 fois supérieure dans les pays de l'OCDE à ce qu'elle est dans les pays à faible revenu. Pensons-nous que durablement, nous pouvons construire la stabilité, les équilibres avec une telle situation ? Non. Nous devons agir. C'est pour cette raison, comme je l'avais annoncé ici l'année dernière, que j'ai décidé de porter l'aide publique au développement de la France et de l'augmenter d'un milliard d'euros dès 2019. Nos crédits humanitaires augmenteront quant à eux de 40%. Mais c'est aussi pour cela que la lutte contre les inégalités sera la priorité de la présidence française du sommet du G7 en 2019. Parce que le temps où un club de pays riches pouvait définir seul les équilibres du monde est depuis longtemps dépassé.
Emmanuel Macron, lors d'une assemblée générale de l'ONU en décembre dernier, le président de la République française annonçait donc ce thème de discussion. La lutte contre les inégalités et s'engager à les mettre à l'ordre du jour de ce G7. Et il insiste dans ce son qu'on entend sur les inégalités entre les pays de l'OCDE et les pays à faible revenu. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, sept chefs d'État des plus grandes puissances mondiales sont audibles et crédibles pour les citoyens quand elles parlent d'inégalités, Maxime Combe ?
Non, ils ne sont pas très crédibles. C'est une forme d'hypocrisie de prétendre, après avoir aggravé ces inégalités à la fois dans chacun des pays, mais également à l'échelle internationale par des politiques qui ont été menées, consignées dans les communiqués finaux du G7 depuis plus de 40 ans que ce G7 existe, de prétendre lutter contre les inégalités alors que par ailleurs les politiques que vous menez dans chacun des pays ne sont pas suivies d'effet. Par exemple, Emmanuel Macron prétend avoir donner un sursaut à l'aide publique au développement. Et il faut savoir que les pays du G7 s'étaient engagés en 2005 au G7 de Gleneagles en Écosse à mettre fin à la pauvreté et à s'assurer que l'aide publique au développement atteigne bien dans leur propre pays les 0,7 points de PIB. Et c'est toujours pas le cas. Donc finalement, le G7 est une machine à promettre et une machine à décevoir. Et les promesses qui ont été faites n'ayant jamais été suivies d'effet, nous avons aujourd'hui un G7 qui, après avoir prétendu sauver le monde sur le plan climatique, social, économique, financier, géopolitique, a si grande reprise que plus grand monde ne croit au fait que le G7 soit armé et en mesure de répondre et de résoudre les crises qu'il a lui-même aggravées.
En 2017 déjà, le G7 qui s'était tenu sous présidence italienne en est ressorti avec un programme dit de Bari qui portait sur la croissance et les inégalités déjà, mais au final pas d'engagement, pas de date butoir. Ça c'est pour compléter votre propos, Maxime Combe. Mais aujourd'hui, quand on parle d'inégalité, de quoi parle-t-on exactement quand ce sont sept chefs d'État qui en parlent, François Dubé? On a entendu là Emmanuel Macron faire la différence, dire il y a des inégalités entre les pays de l'OCDE et les pays à faible revenu. Mais est-ce que pour les citoyens, les ONG qui sont présents ou non au G7, est-ce que déjà cette différence-là, elle est compréhensible quand on parle d'inégalités à des citoyens? Ils ont plutôt tendance à les considérer à leur propre échelle, à l'échelle nationale, locale. Est-ce que cet ordre du jour du G7 peut parler aux citoyens et aux ONG aujourd'hui?
Non, il est évident qu'il est très loin de l'expérience que les individus ont des inégalités, mais il faut bien comprendre que les inégalités se mesurent à des échelles et à des niveaux complètement hétérogènes. Si vous prenez les inégalités mondiales, elles se sont réduites à cause du développement de la Chine et de l'Inde, tout en laissant l'Afrique dans un état de misère extrême. Les inégalités intérieures à tous les pays riches se sont creusées avec la création d'une classe de super-riches et des poches de pauvreté importantes, mais elles ne se sont pas creusées de la même manière dans tous les pays. Donc le thème général des inégalités doit être décomposé en une série de problèmes, de thèmes qui ne sont pas de même nature et qui dans tous les cas en plus sont très loin de l'expérience qu'en ont les individus. Je veux dire que mes difficultés d'accès à un centre hospitalier en France sont plus importantes pour un individu que ne le sont les inégalités considérables entre la France et l'Afrique, que l'on ne voit après tout qu'à travers, et c'est tragique, les gens qui se noient dans la Méditerranée. Donc tout ça est quand même très très loin de l'expérience sociale et politique des individus. Est-ce que ça signifie que c'est totalement dérisoire que de se réunir pour en parler? Bon, on peut toujours discuter. Moi, je pense que poser le problème de cette manière signifie au moins que le capitalisme est en train de comprendre que les inégalités le menacent et que c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle de ce point de vue-là.
Le capitalisme, c'est aussi l'objet de propos qu'a tenu le ministre des Finances Bruno Le Maire, qui a dit qu'un capitalisme qui conduit à l'accroissement des inégalités, à l'épuisement des ressources de la planète, ne mène nulle part. Propos qui vont dans le sens de ceux d'Emmanuel Macron en décembre dernier lors d'un sommet à l'ONU qui disait que à Genève qui disait que le capitalisme était devenu fou. Comment est-ce qu'on peut interpréter aujourd'hui ces propos de la part d'un gouvernement, Maxime Combe, avant d'entendre Clément Sénéchal sur la question de l'implication des ONG?
Effectivement, on a des élites économiques et politiques, la classe de Davos, les gouverneurs de ce monde. Et je suis d'accord avec François Dubé, qui ont pris conscience du fait que les inégalités sont aujourd'hui une source de déstabilisation du système économique, politique, géopolitique dans lequel nous vivons. Et donc du coup, ils prétendent y répondre. Mais ils prétendent y répondre, en tout cas affichent la question des inégalités comme un enjeu majeur du G7, comme un enjeu majeur des défis auxquels nous sommes confrontés, et tout en espérant pouvoir sauver les politiques et les mesures qu'ils ont mises en œuvre depuis 35 années, 40 années, et qui ont contribué à l'aggravation de ces inégalités-là. Si vous voulez, il y a aujourd'hui un gap extrêmement fort, il y a un schisme de réalité, pour prendre un terme qui a été utilisé par certains auteurs, entre la réalité du discours et la réalité des politiques qui sont menées. Le fait qu'on ne veuille absolument pas, à un moment donné, réguler cette globalisation galopante, qu'on ne veuille pas mettre fin aux politiques d'évasion fiscale qui sont menées par les multinationales, que les mesures qu'on prend sur ces sujets soient des mesurettes qui ne soient pas à la hauteur des enjeux, montrent bien qu'il y a une dichotomie extrêmement forte entre ce qui est annoncé, ce qui est prétendu être le cœur des priorités publiques et la réalité des politiques mises en œuvre. Ensuite, sur le G7, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, cette instance est complètement démonétisée. Et comment peut-elle prétendre réduire le problème des inégalités, alors que se trouvent simplement sept pays qui ont incarné la domination effectivement occidentale, mais du siècle passé. C'est une scorie, une relique qui nous parvient du siècle passé et avec laquelle nous devons faire face dans ce siècle-ci. Mais on ne peut pas régler la question des inégalités mondiales sans avoir l'ensemble des pays de la planète autour de la table.
Il faudrait réformer le G7 plus que de le supprimer ou plus inclure plus de pays pour que les enjeux discutés soient plus réalistes, vous pensez, Maxime Combe?
De notre point de vue, le G7 est une instance illégitime qui n'a pas lieu d'être,
du point de vue d'attaque,
de se rencontrer et de se retrouver. Et donc, du coup, nous pensons qu'effectivement, les efforts diplomatiques, plutôt que cette diplomatie de connivence en bras de chemise sur une plage à Biarritz, les efforts diplomatiques de la France, de l'Union européenne, devraient aller sur une réforme, un approfondissement, une démocratisation de l'ONU, et que l'ONU soit réellement en charge de cette lutte contre les inégalités à l'échelle internationale, et que nous ayons à la même table de négociation à la fois les acteurs de ces inégalités et les pays qui en sont les victimes. Alors, on a un forum des pays les plus vulnérables du point de vue du climat, mais qui sont généralement les pays les plus pauvres également et victimes de ces inégalités mondiales.
Et qui ne sont pas invités à la table du G7.
Et ils ne sont pas à la table du G7 où on les invite ponctuellement, l'un d'entre eux, parce qu'on a confiance dans ce qu'il va dire. Voilà, aujourd'hui, on a une instance qui est démonétisée, qui est désarmée et qui est illégitime pour résoudre les grandes crises qu'elle a contribué à aggraver.
D'autres personnes qui ont mis du temps, en tout cas, à être invitées à la table du G7, ce sont certaines ONG dont vous faites partie, Clément Sénéchal, Greenpeace. Greenpeace a d'ailleurs boycotté le déjeuner auquel Emmanuel Macron avait invité la plupart des ONG à la veille de ce G7. Lors de ce déjeuner, il a dit « J'ai besoin des ONG et des entreprises pour faire porter ma voix ». Comment vous expliquez, vous, de votre point de vue à Greenpeace, Cette invitation tardive, alors que les accréditations étaient longtemps inaccessibles, alors que les appels des ONG à dire bah, « nous, on veut faire partie de cette réflexion sur les inégalités parce que ça nécessite un dialogue quand même avec la société civile » sont restées lettre morte longtemps. Comment vous expliquez ce revirement à la veille du G7, assez tardif en fait?
Ce revirement s'explique parce qu'on a eu ce boycott des ONG qui a entraîné un bad buzz tout simplement par le gouvernement, et que c'était une manière d'essayer de rattraper le coup une fois qu'il était malheureusement trop tard. En réalité, depuis que la France a la présidence de G7, qui se voulait ouvert et inclusif, les conditions de participation de la société civile ont été inacceptables. Hein. Tous les rendez-vous de travail ont été annulés les uns après les autres. On se retrouve avec cette opération de communication, un déjeuner somptuaire la veille du sommet, alors que les jeux sont déjà faits, les équipes de négociation ont déjà fait leur travail. Et voilà, on s'est heurté à une volonté politique manifeste de tenir à l'écart les ONG et de les empêcher d'irriguer le débat politique et public avec leur expertise et leur analyse. Et c'est en fait très significatif du porte-à-faux grandissant sur lequel se trouve Emmanuel Macron sur les questions climatiques.
Et pourquoi ne pas avoir profité justement de cette invitation, même tardive, à déjeuner pour faire entendre votre voix auprès du président de la République en vue de ce G7?
Notre voix, elle est très connue par le président de la République. On fait valoir nos recommandations en permanence. Elles sont à la fois publiques.
Et concernant les enjeux spécifiques de ce G7, justement,
sont très bien connus par les équipes de l'Élysée, je vous le garantis. On les a déjà informés, nos positions, on le fait régulièrement, elles n'ont pas changé. On n'a pas besoin d'aller faire de la figuration dans les mises en scène de l'Élysée pour faire passer nos messages. Et le pire, comme disait effectivement Greta Thunberg quand elle était venue à l'Assemblée nationale en France, le pire c'est de faire semblant, voilà. Et nous, on ne veut pas participer à la mascarade d'un président qui fait semblant sur le climat.
Tout à l'heure, dans le journal de 12h30, Clément Sénéchal, on entendait un jeune manifestant écologiste commenter la sortie d'Emmanuel Macron sur sa volonté d'intervenir sur les feux en Amazonie, en disant bah, « si on va dans ce sens-là, ça commence à aller dans le bon sens ». Qu'est-ce que comment vous regardez cette récente déclaration d'Emmanuel Macron au tout début de ce G7 en tant que porte-parole de Greenpeace?
C'est un peu le bal des hypocrites. Je veux dire, Emmanuel Macron découvre aujourd'hui qu'il y a un problème avec l'Amazonie. Emmanuel Macron découvre aujourd'hui qu'il y a un problème avec les traités de libre-échange. Emmanuel Macron découvre aujourd'hui que Jair Bolsonaro a un agenda politique qui consiste à livrer l'Amazonie aux intérêts de l'agro-business. Jair Bolsonaro a fait campagne sur ce thème. Depuis qu'il est arrivé, il a mené des politiques de démantèlement permanent de toutes les structures qui permettent, et les législations qui permettent, de protéger l'Amazonie. Donc voilà, après, si on parle du Mercosur, on se réveille un peu tard. Il a été signé par l'Union européenne avec la bénédiction de la France. Jair Bolsonaro ou pas, de toute façon, ce traité allait entraîner...
Traité remis en cause hier, donc, par Emmanuel Macron.
Effectivement, et ce traité, de toute façon, allait entraîner une accélération dramatique de la déforestation en Amazonie. Et enfin, si on veut être cohérent, qu'est-ce qu'on fait avec le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada, qui a été ratifié par la France, alors même que l'exécutif s'était engagé à mettre toute une série de garde-fous climatiques qui n'ont pas abouti à ce jour? Voilà, donc Emmanuel Macron est malheureusement dans la communication, il prend la balle au bond sur la scène internationale, voilà, de manière plutôt habile, mais ça ne cache pas le défaut de cohérence générale d'Emmanuel Macron sur ces sujets.
Alors concernant les solutions que l'on peut mettre en place au niveau supranational pour lutter contre les inégalités, il y a ce nœud de la remise à plat de la fiscalité internationale. Alors les ministres des Finances du G7 se sont entendus sur la nécessité d'instaurer un impôt minimum pour les entreprises et notamment la taxation sur la taxation du numérique. La France espère un accord de principe sur ce point, ce qui paraît plutôt mal engagé quand on considère les récentes polémiques, notamment de la part de Donald Trump sur la taxation des GAFA. Comment est-ce que ce point peut être abordé aujourd'hui dans le cadre du G7, François Dubet?
Moi je trouve que toutes les critiques que l'on fait sont parfaitement recevables, mais le G7 ne peut pas être une institution politique, c'est-à-dire que le G7 en fait ne décide de rien. Je veux dire par là que c'est un club d'une certaine
de
manière,
recommandations,
mais un club dans lequel dont les membres ne sont absolument pas d'accord. Je vais prendre un exemple extrêmement simple sur les GAFA, par exemple. L'Europe et la France ont intérêt à taxer les GAFA parce que c'est quand même des déperditions fiscales considérables. Les États-Unis s'y opposent, ont des mesures de rétorsion. En même temps, les sociétés qui sont représentées, entre guillemets, alors avec tous les guillemets du monde, par ses dirigeants, ont des rapports aux inégalités extrêmement contrastés. Je veux dire que les États-Unis, par exemple, tolèrent des inégalités qui nous paraîtraient, en Europe occidentale, parfaitement invraisemblables. Donc, d'une certaine façon, on peut faire cette critique, elle est parfaitement légitime, mais le malentendu vient de croire trop, au fond, que l'on puisse avoir des dirigeants économiques, des dirigeants politiques, qui s'accorderaient sur des politiques dans lesquelles ils ont des intérêts parfaitement contradictoires. On attend tous le scandale que va créer Trump demain ou ce soir par une déclaration incroyable selon laquelle il veut acheter je sais pas quoi, quel pays. Bon, on est quand même dans un... La déception vient du fait qu'on pourrait croire que c'est une instance politique, ça n'est pas une instance politique. Donc les bénéfices en seront toujours extrêmement limités et l'on pourra à l'infini dénoncer l'hypocrisie, l'impuissance, le masque. Mais d'une certaine façon, c'est dans la nature même de ces rencontres.
Mais alors François Dubet, selon vous, qu'est-ce qu'on peut espérer de ce G7?
Moi, je crois que ce qu'on peut espérer de ce G7, mais c'est à très long terme, c'est que de la même manière que progressivement s'est installée l'idée que la planète ne pourrait plus supporter les types de croissance que nous avons, je crois que peut s'installer progressivement l'idée que les inégalités que nous développons ne seront plus supportées par les systèmes politiques et par les sociétés. Donc c'est ça qu'on peut en attendre. Quand on voit la concentration extrême de la richesse chez quelques-uns, quand on voit les déperditions fiscales considérables qui se jouent aujourd'hui, on voit bien que, d'une certaine manière, il peut y avoir un sentiment de panique qui envahisse les dirigeants économiques et les dirigeants politiques et l'opinion publique derrière. C'est pour ça qu'il y a une sorte de complémentarité quand même dans tout ce qui se passe entre la société civile et les gouvernants. C'est que d'une certaine façon s'installe l'idée que les inégalités ne sont plus supportables, pas simplement pour des raisons morales, mais elles sont plus supportables pour des raisons même de fonctionnement du système qui existe aujourd'hui.
Maxime Combes, donc François Dubet.
Je suis un peu optimiste.
François Dubet disait à l'instant qu'il y avait une différence de ressenti entre ce qu'attendait la société civile et ce que pouvait faire un G7, mais quelle serait la première des conditions à mettre en œuvre pour qu'un tel sommet, que ce soit un G7 ou autre chose que l'on pourrait imaginer, pour que ce genre de sommet de grande puissance puisse fonctionner et ressortir avec au moins une mesure là, sur la question des inégalités qui serait viable et applicable.
Pour ce qui nous concerne, nous considérons que le G7 est illégitime. Donc nous n'en attendons rien, nous n'avons pas d'attente, contrairement à ce que laisse penser peut-être François Dubé, des espérances fortes vis-à-vis d'un G7.
Et quelle serait une instance légitime pour attaque, puisque vous dites nous pour attaque, je le rappelle à nos auditeurs.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'instance légitime, l'instance qui, dont la charte commence par nous, peuple de la planète ou nous, peuple du monde, c'est l'ONU. Et ce qui se passe à travers ces G7, à travers cette diplomatie de connivence, cette diplomatie parallèle dont Emmanuel Macron est extrêmement friand, contribue à saper les fondements même d'une possibilité décision et d'une diplomatie réellement effective au sein même de l'ONU qui tient compte des intérêts, pas simplement des pays les plus industrialisés ou des pays qui ont été les plus riches et les plus puissants et qui ne le sont plus, mais qui tient compte également des intérêts des populations, des pays les plus pauvres, les plus vulnérables. Et donc du coup, ce que nous appelons, c'est effectivement un sursaut politique. C'est effectivement un sursaut politique qui considère que les inégalités ne sont pas un problème moral, mais un problème politique, économique, écologique, fondamental, qu'il faut tenter de résoudre à l'échelle internationale et dans chacun des pays. Mais pour ce faire, nous avons besoin d'instances légitimes. Et ces instances légitimes que sont le G7 ou même le G20, où cette diplomatie de connivence tente de faire croire qu'elle est plus efficace que la vieille diplomatie qui se mène pays au sein de l'ONU est problématique. Donc du coup, moi, ce que nous appelons, par exemple, pour prendre un des sujets qui a été le vôtre tout à l'heure sur la question des inégalités ou de l'évasion fiscale, nous avons une proposition qui est relativement simple, qui est pas simplement des mini-taxes proposées par la France, qui sont par ailleurs sans doute contraires au droit commercial international de l'OMC, mais de mettre en place une taxe unitaire globale sur les multinationales. Ça peut être mis en œuvre de manière unilatérale dans un seul pays. Et pour cela, nous avons besoin simplement de transparence et d'accès aux données et de ce qu'on appelle le reporting pays par pays qui permettrait de savoir précisément ce que les multinationales font dans chacun des pays et de pouvoir les taxer à ce niveau-là.
Donc avant d'instaurer un impôt minimum, il faudrait peut-être instaurer, dites-vous, plus de transparence au niveau des multinationales. Mais avant d'aller plus loin sur cette question, je voudrais demander à Clément Sénéchal. Donc Maxime Combes disait à l'instant qu'une instance légitime, plus que le G7, pour traiter en tout cas de la question des inégalités et puis des autres questions que le G7 a traitées jusque-là, ce serait l'ONU. À Greenpeace, quel regard vous portez, vous, sur la légitimité de cette instance internationale, l'ONU, plutôt qu'une autre, donc le sommet du G7, pour traiter ces questions-là d'inégalité en matière économique, écologique?
Bah, effectivement, c'est l'ONU l'instance internationale la plus légitime et qui est censée mettre en œuvre le multilatéralisme qui doit engager tous les États de la planète et où tous les États justement se retrouvent et discutent, des plus petits aux plus gros.
Après, mais là encore, les mesures qui en découlent, si parfois il y en a, ne sont pas toujours appliquées, les engagements ne sont pas toujours respectés.
Non, mais au moins il y a un droit international qui est garanti par l'ONU, ce qui n'est pas le cas du G7, effectivement, qui est une instance simplement diplomatique, de discussion, de déclaration. D'ailleurs, les résultats d'un G7, ce sont des communiqués, ce ne sont rien de plus en réalité. Donc c'est une instance qui émet des signaux politiques, qui prend des engagements. Après, est-ce qu'on arrive à les tenir comptables ou pas? Voilà, mais c'est pas du tout une instance qui produit du droit, par exemple. Après, ces États-là, maintenant, ils sont là, ce sont les plus puissants du monde, ils ont une responsabilité particulière sur la question du changement climatique. Inégalité et climat, c'est exactement le même sujet. Je rappelle que les 1% les plus riches de la planète polluent au moins autant en termes de CO2 que les 50% les plus pauvres. Les 10% les plus riches de la planète émettent la moitié des émissions de gaz à effet de serre mondial, et ces pays du G7, c'est presque un quart des émissions de gaz à effet de serre au niveau international. Et donc ces pays, ils ont des devoirs, en fait, ils ont une responsabilité morale, et notamment ce qui s'appelle le financement à l'adaptation des pays les plus pauvres, parce que ce sont les populations les plus vulnérables qui pâtissent le plus du changement climatique. Je donne juste un exemple, c'est en mars cette année, Il y a des villes, une ville qui a été rayée de la carte au Mozambique suite à des ouragans qui procèdent du changement climatique. Voilà. Et aujourd'hui, ces États qui s'étaient engagés, notamment à la COP21, à mettre 100 milliards d'euros sur la table par an, voilà, les 100 milliards ne sont pas là. Et ces États du G7 ne remplissent pas pour l'instant leur promesse de financement aux pays en voie de développement pour s'adapter au changement climatique. Et notamment la France, c'est ce qu'on demande à la France. C'est-à-dire notamment qu'elle recapitalise ce qui s'appelle le fonds vert, qui est un fonds onusien dédié à cette adaptation, qui est aujourd'hui à court de financement. On demande à la France qu'elle s'engage sur ce terrain-là, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.
François Dubé, vous le disiez tout à l'heure, il ne faut pas attendre du G7 qui n'est pas une instance politique, que l'on prenne des mesures immédiates. C'est une instance de concertation. Mais est-ce que il aurait peut-être fallu du moins un instant de clarification des enjeux de ce G7 en termes d'inégalité? On le voit en écoutant Clément Sénéchal, il est qui dit que inégalité et urgence climatique, ce sont deux sujets qui s'emboîtent, qui se rejoignent, qui sont les mêmes. Est-ce qu'il aurait fallu, pour, avant ces trois jours de discussion, trois jours c'est rien sur un grand sujet comme celui-ci, ne serait-ce que clarifier un ordre du jour, catégoriser pour rendre les enjeux de ce G7 un peu plus accessibles à ceux à qui il s'adresse, c'est-à-dire les citoyens?
Mais je crois que en matière d'inégalité, tout est dans tout réciproquement. Et donc c'est un ensemble extrêmement complexe et dans lequel les États nationaux gardent la main très largement. Après tout, la Chine s'est enrichie en devenant plus inégalitaire et je vois pas pourquoi elle renoncerait à ce modèle de développement qui, pour le moment, lui est extrêmement favorable. Je vois pas en quoi l'ONU aurait des problèmes différents de ceux du G7. Ça serait mieux, ça serait plus démocratique, mais d'une certaine manière, les registres d'inégalité ne sont pas les mêmes. Alors, c'est vrai que si l'on traite les problèmes de façon extrêmement globale, on est dans du déclaratif un peu vague, mais quand on descend sur les problèmes plus précis d'inégalité, évidemment, on change d'échelle, on tombe à un niveau national. Donc tout ça est extrêmement frustrant, tout ça est extrêmement difficile. Et si un pays, ce que je souhaiterais après tout, que mon pays fasse sur les inégalités, les taxations, tout ce qu'il pourrait faire et ce qu'il promet de faire, il sait aussi que la vengeance de la finance internationale sera immédiate. Donc, d'une certaine façon, on est pris dans un système, et je répète, je n'attends rien de ce G7, mais je crois quand même que le fait que les inégalités apparaissent aujourd'hui comme un problème insupportable et pas comme une série de problèmes locaux que l'on pourrait régler par des politiques locales, ça me paraît plutôt aller dans le bon sens. Alors, ça n'empêche pas l'hypocrisie, les arrière-pensées, mais la politique, c'est un monde d'arrière-pensées et de calculs. Il ne faut pas non plus être complètement naïf là-dedans. Mais il me semble que ce qu'on aurait pu attendre, en tout cas, c'est peut-être une définition, une distinction des problèmes qui sont de nature internationale et sur lesquels il pourrait y avoir un minimum de concertation, d'accord, etc. Je pense évidemment en particulier, pour ce qui est des inégalités, aux évasions fiscales qui sont considérables, à tous ces problèmes qui font que les États s'appauvrissent, les États perdent la main. Et peut-être que dans le fait qu'ils perdent de la main aujourd'hui, je le répète, y a-t-il une véritable inquiétude? Car au fond, on peut faire l'hypothèse que tous ces gens pensent que le développement des nationalismes économiques, etc., conduirait le système à sa perte, d'une certaine façon. Donc, je crois que toute cette agitation, à la fois des dirigeants et de ceux qui les contestent, peuvent peut-être ne pas être complètement inutiles.
Emmanuel Macron s'est exprimé à l'instant, a fait une allocution télévisée à l'instant en direct de Biarritz. Et justement, il a décomposé toutes ces problématiques liées aux inégalités, les inégalités, pardon, je vais y arriver, hommes-femmes, des initiatives pour l'Afrique, pour le numérique, pour protéger l'information, pour rendre l'économie plus juste. Il a aussi dit que le climat devait se trouver au cœur du G7, tout ça, ce ne sont que des annonces et voire des répétitions d'annonces. Est-ce que pour autant ça clarifie, Clément Sénéchal, ce qu'il veut dire par inégalité?
Pas tellement, hein. Il y a une mode justement en ce moment dans les négociations diplomatiques qui est de construire des coalitions, d'avoir des initiatives publiques privées un peu dans tous les sens, et on se retrouve avec des choses voilà qui sont très peu lisibles en réalité, qui font diversion par rapport à la discussion vraiment multilatérale où on a des engagements politiques qui sont pris, et souvent ce sont des initiatives qui ont aucun suivi, très peu de redevabilité, donc on n'arrive pas à rendre comptable les acteurs qui prennent ces engagements, etc. Donc voilà, c'est surtout, on agite beaucoup de choses pour faire semblant d'avoir des résultats, et ça nous permet en réalité d'éviter les sujets qui fâchent et les confrontations diplomatiques franches qu'il faut avoir, et notamment sur les dossiers climatiques, hein, où il y a un enjeu pour Emmanuel Macron d'isoler Donald Trump d'une part, et d'emmener autour de lui une coalition plutôt en G6, hein, des autres États, autour d'un message climatique fort, c'est-à-dire une réhausse de l'ambition des objectifs climatiques et des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à 2030. Parce que pour l'instant, les engagements qui sont sur la table, qui ont été pris par ces pays du G7, ça nous mène à une augmentation des températures à plus 3, voire plus 4 degrés d'ici à la fin du siècle. Donc bien loin des 1,5 degrés préconisés non seulement par le GIEC, mais sur lequel se sont engagés ces mêmes États au sein de l'accord de Paris.
Le suivi, ce mot que vous avez dit, Clément Sénéchal, est-ce que ce serait justement un moyen de mieux mener ce genre de sommet, ce genre de concertation? Est-ce qu'il faut imposer, comme par exemple le suggérait aussi l'ONG Oxfam dans son dernier rapport, des réflexions et au niveau national et des dates butoirs et un meilleur contrôle de ce qui est mis en œuvre après de telles concertations, Maxime Combes?
Et le G7 a un bilan, et c'est là où je suis un peu en désaccord avec ce qu'exprime François Dubé. Le G7, effectivement, ne prend pas de décision, ne construit pas de droit international, mais il ne cesse de promettre et de produire des promesses pour l'ensemble de la planète et de se dire à la hauteur des enjeux, des défis, des crises auxquelles nous sommes confrontés. Dans les années 80, au lendemain de Tchernobyl, le G7 se réunit et assure qu'il va assurer la sécurité nucléaire à l'échelle mondiale et lutter contre la prolifération nucléaire. Le bilan 30 ans après, il est clair, ça n'a pas été le cas. Le G7, en 1999, à Cologne, promet l'annulation de la dette des pays pauvres pour lutter contre les inégalités. Cela n'a pas été fait. En 2005, à Gleneagles, le G7 promet la fin de la pauvreté et d'augmenter l'aide publique au développement. Cela n'a pas été fait. En 2009, à L'Aquila, en Italie, le G7 prend pour lui-même des engagement de réduction d'émissions de gaz à effet de serre de 80% pour l'ensemble des pays industrialisés les plus riches. Cet objectif-là n'a jamais été repris dans aucun autre communiqué de presse depuis. Il n'y a jamais eu d'engagement aussi haut et aussi chiffré.
Et donc, au-delà voilà, de ce constat, G7, Maxime Combes, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement infléchir ce bilan à l'avenir? Est-ce qu'il faut instaurer des engagements, voire des pénalités peut-être, des dates butoirs et vraiment matérialiser un tout petit peu plus l'engagement des États peut-être?
Nous avons deux possibilités. Face à la gravité des crises auxquelles nous sommes confrontés, nous avons deux options. C'est de faire perdurer un modèle dont on arrive à bout de souffle. Et le G7 et ses espaces géopolitiques informels de diplomatie de convivance en sont l'expression même. Ou nous avons la possibilité de redorer le blason du multilatéralisme international et d'essayer d'effectivement refonder l'ONU de manière plus démocratique et qu'elle soit en mesure de répondre aux grands défis d'intérêt général qui sont les nôtres. Donc moi, je ne vais pas appeler à ce qu'on fasse plus de suivi des engagements du G7. Le G7 va acter à Biarritz son impuissance parce qu'il ne sera même pas en mesure de produire un communiqué de presse. Il n'y aura pas de communiqué de presse à ce G7. Aux yeux du monde entier, il va marquer et acter son impuissance totale à résoudre les graves crises auxquelles il contribue et qui contribuent à aggraver. Donc nous avons besoin d'un sursaut politique, effectivement, et la France et l'Union européenne seraient bien intentionnées à mettre bien plus d'efforts pour essayer de refonder, redémocratiser l'ONU, et que ce soit dans ces espaces internationaux où l'ensemble des pays à minima sont représentés et où la charte des Nations Unies dit « nous, peuple de la planète », que nous puissions remettre la main sur un processus de discussion et de décision qui soit bien plus démocratique, bien plus légitime, bien plus redevable devant les yeux de la population mondiale et qui sont en mesure, peut-être demain, et c'est un pari effectivement, mais aujourd'hui pas plus que le G7 et le G20 y arrivent, qui soient en mesure demain de résoudre les graves crises économique, écologique, social, climatique
mondial,
auxquelles nous sommes confrontés.
Redorer le blason du multilatéralisme international, c'est ce qu'on retiendra. Vous serez au moins d'accord là-dessus, tous les trois. Clément Sénéchal, Maxime Combes, François Dubé, merci infiniment d'avoir été avec nous pour ce premier plateau. Des nouvelles de ce G7 sur France Culture, ce sera dans le journal de 18h, mais dans un instant, on parle crise politique italienne. Du groupe italien, suisso-italien, Mister Milano. Mélancolique chanson sur un clown triste, chanson sortie sur l'album Mister Milano en 2017.
Le magazine du week-end, Émilie Chaudet.
L'Italie traverse cet été une grave crise politique. Le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, a fait voler en éclats le 8 août dernier l'alliance gouvernementale conclue avec le mouvement 5 étoiles et a réclamé des élections anticipées. Et mardi dernier, ce fut au tour de Giuseppe Conte, le président du Conseil italien, très discret jusque-là et qui a décidé donc de donner sa démission. Alors quel avenir politique pour l'Italie? Est-ce que les forces politiques italiennes en présence sont en mesure de se constituer en front anti-Salvini ou du moins de s'allier de manière à empêcher des élections anticipées cet automne, au moment peut-être le plus opportun pour Matteo Salvini? On va voir pourquoi et on va discuter de tout cela avec vous, Ludmila Acone. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne et spécialiste de l'Italie. En face de vous, Alberto Toscano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, politologue et écrivain, correspondant à Paris pour le Corriere della Sera, Italia Oggi. Non, je me trompe. Pardon ?
Pour Radio Radicale.
Radio Radicale, d'accord. Plus du tout de Corriere della Sera, ni Italia Oggi.
Je le lis, le Corriere della Sera.
Très bien. Et avec nous, pour discuter aussi, Christophe Bouillot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en duplex depuis les studios de Radio France à Lyon. Vous êtes politologue, professeur de sciences politiques à Sciences Po Grenoble et spécialiste de la vie politique italienne.
La decisione della Lega di interrompere questa esperienza di governo al fine di tornare urgentemente alle urne elettorali.
Cette décision de la Ligue d'interrompre cette expérience de gouvernement afin d'anticiper des élections en urgence, je la trouve objectivement grave. Je vous explique pourquoi. Permettez-moi de dire que le ministre de l'Intérieur a montré qu'il poursuivait ses propres intérêts, ainsi que ceux de son parti. Faire voter les citoyens est l'essence même de la démocratie. Les appeler aux urnes chaque année, voilà une attitude responsable. À travers le comportement qu'a adopté le ministre de l'Intérieur ces derniers jours, et j'assume totalement ce que je vais vous dire, ce comportement révèle une faible sensibilité institutionnelle et un cruel manque de culture constitutionnelle. Cher ministre de l'Intérieur, cher Matteo, tu dois assumer ta responsabilité face au pays dans la grande crise politique que nous traversons. Tu as annoncé cette crise en demandant les pleins pouvoirs pour gouverner le pays. Et encore récemment, je t'ai entendu invoquer le soutien des places publiques. Permets-moi de te dire que ta conception de la politique m'inquiète.
Nous entendons ici le président du Conseil des missionnaires, Giuseppe Conte, s'adresser à Matteo Salvini. C'était mardi dernier au Sénat. On entend aussi dans cet extrait une libération de la parole d'un président du Conseil que l'on avait peu entendu jusque-là. Un manque de culture constitutionnelle, un manque de sensibilité institutionnelle, une responsabilité donc vraiment imputée très explicitement à Matteo Salvini dans la crise que l'Italie traverse. Qu'est-ce que cet extrait révèle de ce qu'a été ce gouvernement d'un point de vue intérieur depuis 14 mois, Christophe Bouillot?
D'abord, cela révèle que c'était avant tout un mariage de raison et pas du tout un mariage d'amour. Ce gouvernement a été formé, faute de mieux, à l'issue des élections de mars 2018, entre deux forces qui finalement n'avait rien pour s'entendre vraiment. D'une part, la Ligue, qui effectivement représente les intérêts du nord de l'Italie, la partie la plus riche, la plus développée, la plus égoïste aussi. Et de l'autre côté, le M5S, qui avait fini par devenir... le mouvement 5 étoiles, qui avait fini par devenir, en quelque sorte, l'avocat des partis les plus faibles de la population, à la fois des partis les plus faibles socialement, et à la fois les parties les plus faibles géographiquement, c'est-à-dire du sud de l'Italie. Donc cette alliance, à un certain moment, était destinée à s'écraser.
Depuis le début de ce gouvernement, l'alliance, comme vous le suggériez, Christophe Bouillot, du mouvement 5 étoiles avec la Ligue, le parti de Matteo Salvini, n'allait pas de soi. Est-ce que, outre cette volonté de plein pouvoir de Matteo Salvini, cette crise est aussi la conséquence de tensions d'un gouvernement non viable? Ludmila Hakon est sur cette question.
C'est un gouvernement de compromis qui a été bâti sur un contrat, sur des points minima, sur lesquels les deux parties qui sont totalement à l'opposé se sont entendues pour des raisons de blocage institutionnel. Donc, si vous voulez, c'est pas deux parties qui se sont présentées en coalition, qui avaient vocation à gouverner ensemble. Donc, c'est à la suite de la impossibilité de faire autrement que ces deux parties se sont mis ensemble. Il est évident qu'ils ont tout fait pour essayer de garder le gouvernement en place, pour ne pas précipiter des chutes de gouvernement, mais que ça tanguait à plusieurs reprises parce qu'il y a des divergences profondes à la fois sur leurs origines et leur histoire, mais c'est aussi dans la base des deux parties qu'il y a effectivement des positions tout à fait différentes, notamment sur les questions sociales, sur les questions de l'immigration, sur les questions de la sécurité, etc.
Alberto Toscano, avant de passer au scénario possible et aux alliances possibles, j'aimerais avoir votre point de vue sur cette question, sur ce qu'on vient d'entendre dans cet extrait, cette libération de la parole et ce président du Conseil qui sort un peu de ses gonds. Est-ce que c'est une scène inédite dans la vie politique italienne de ces dernières années?
Oui, il y a eu deux seules crises de gouvernement dans l'histoire de la République italienne qui ont eu lieu au Parlement, et c'est les deux crises de deux gouvernements Prodi. Ceci dit, je crois que l'élément fondamental de l'échec de cette expérience du gouvernement qui a duré 14 mois a été le succès électoral de la Ligue aux élections européennes de juin dernier. Il faut remarquer le fait que la Ligue a eu le 17% aux élections de mars 2018, les législatives, et 34 aux élections de juin 2019 européennes, dont la Ligue a le vent en poupe. Elle a le vent en poupe pour une raison fondamentale, et c'est la question migratoire. Matteo Salvini se présente comme le garant de la force nationale italienne. Je dis, il se présente comme tel, je dis pas qu'il l'est.
On a bien compris.
La force nationale italienne vis-à-vis d'un problème que les Italiens perçoivent de façon dramatique pour deux raisons, et je termine. La première est paradoxalement la moins importante, et c'est la dimension du flux migratoire. La deuxième est le sens de frustration que les Italiens perçoivent à cause de la persuasion italienne d'avoir été abandonnée par l'Europe, humiliée par l'Europe. Et cet ensemble de situations provoque une réaction dont Salvini, avec sa ligne extrêmement dure sur la question migratoire, est le bénéficiaire.
Alors, Christophe Bouilleux, j'aimerais qu'on continue avec vous dans la lignée de ce que vient de dire Alberto Toscano sur la popularité de Matteo Salvini, qu'on imagine aujourd'hui en tout cas, qui paraît être à toute épreuve. Donc, le taux d'intention de vote attribué à la Ligue est de 38% dans les sondages. On est dans un contexte où pas grand-chose ne l'atteint, ni sa gestion de la politique migratoire, bien au contraire, comme vient de le dire Alberto Toscano, ni cette rumeur de financement de la Ligue par la Russie qui apparemment n'infléchit pas non plus les chiffres dans les sondages. Mais est-ce que cette sortie du 20 août de Giuseppe Conte, accusant publiquement devant toute la classe politique et devant le peuple, en fait, Matteo Salvini de ne pas être capable de mener un mandat politique, est-ce que ça ne l'a pas affaibli, décrédibilisé, ou il en faut beaucoup plus encore, Christophe Bouilleux?
Il me semble qu'auprès de son électorat, il en faudra quand même un petit peu plus. Il faut rappeler aussi que l'électorat de la Ligue s'est construit progressivement au fil des années et que c'est quand même un électorat assez fidèle. Et par exemple, toutes les accusations que peut porter la magistrature italienne à son encontre seront considérées comme nulles et non avenues par l'électorat de la Ligue, sur le modèle tout à fait semblable à celui de Berlusconi, qui a été son allié pendant longtemps, c'est-à-dire que l'électorat de la droite italienne pense fondamentalement que tous les juges sont rouges, complotistes, et que toute accusation contre leur leader est une fausse accusation. Donc, il y a déjà cet aspect-là. Ensuite, le côté, il ne faut pas oublier que Matteo Salvini, contrairement aux autres hommes politiques italiens, est en campagne absolument permanente. C'est-à-dire qu'il faut imaginer quelqu'un qui fait des meetings pratiquement tous les soirs, qui tweete à peu près comme Donald Trump toutes les 30 secondes, et effectivement qui
occupe l'espace... Des meetings remplis d'ailleurs.
Des meetings assez remplis, voilà, ou du moins dont l'image qu'on en a médiatiquement est d'être assez remplie. Il parcourt la péninsule de manière frénétique, etc. Et il fait nouvelle tout le temps. C'est-à-dire que il a quand même une capacité à faire nouvelle qui est assez extraordinaire, dans lequel les médias effectivement se laissent prendre.
Matteo Salvini d'ailleurs a fait nouvelle donc le 8 août dernier en réclamant des élections anticipées, ces élections législatives qui devaient avoir lieu en 2023 et qui donc pourraient avoir lieu en septembre si les alliances de différents partis n'ont pas lieu. Alors pourquoi est-ce que en septembre ce serait le moment idéal pour Matteo Salvini? Parce que le 27 septembre prochain, le DEF, le document d'économie et de finances, sera donc pris en charge par la classe, par les dirigeants en présence, et il ne sera pas très positif. Une hausse de la TVA s'imposera et Matteo Salvini n'aura pas à signer ce texte qui pourrait creuser une impopularité. Mais alors, maintenant, étudions peut-être les scénarios possibles. Est-ce qu'une alliance politique peut être envisageable, en tout cas entre le Parti démocrate, parti de gauche, et le mouvement 5 étoiles? Le Parti démocrate a fait cette proposition au mouvement 5 étoiles. Ludmila Hakon, sur cette question.
Il y a eu des rencontres multiples ces dernières heures, ces deux derniers jours. Il y a eu des propositions de Zingaretti, le responsable du PD, et des propositions de Di Maio pour le 5 étoiles. Et donc il semble bien qu'un certain nombre de convergences se dessinent. Il y a eu par ailleurs une contre-proposition de dernière minute de Salvini qui a essayé de revenir en proposant un gouvernement avec Di Maio, président du Conseil. Di Maio a refusé en disant que c'est Conte et qu'il devrait être président du Conseil bis. Donc il a refusé. Est-ce qu'il y a d'autres tractations par ailleurs? On parle, il y a un nom nouveau qui a été inventé lors de cette dernière crise depuis un an. C'est la politique des deux fours, c'est-à-dire on fait deux fours allumés et on ne sait pas si les deux sont allumés ou pas. Di Maio a dit que non. Certains soupçonnent que oui. La question est que, semble-t-il, cette alliance soit en train de se faire, mais il y a des dissensions à la fois au sein du PD et au sein de 5 étoiles entre ceux qui sont pour et sont contre. Mais j'aimerais, si c'est possible, tout à l'heure, de revenir sur l'image de Salvini, si vous voulez.
Oui, mais même allez-y maintenant, si vous voulez.
Bien, je voulais simplement dire sur Salvini, c'est que c'est vrai, il a fait beaucoup de campagne électorale, on va dire. Mais l'image de Salvini, ce n'est qu'une image en quelque sorte. Certes, il a fait une politique migratoire, enfin de la politique migratoire, son cheval de bataille, de la loi sur la sécurité, mais il n'a pas répondu aux questions que les Italiens se posent.
Économique et sociale. Absolument. Notamment.
Donc sa position à lui, c'est vraiment d'utiliser l'image comme on le fait depuis des siècles, et je dirais même aussi comme Mussolini a utilisé la bataille
du
blé.
Oui, des parties
la bataille du blé en 25, en se montrant torse nu, vous voyez, avec la faux sur ses bras. Donc, si vous voulez, c'est quelqu'un qui craint des décisions concrètes, parce que cette bulle qu'il a créée va, à un moment donné, tomber. Donc, il a intérêt à ce que les choses se passent très très vite. D'ailleurs, il y a un autre problème qu'il n'est pas capable de régler, c'est comment est-ce que négocier avec des alliés sur une politique constructive, y compris au niveau social. Et c'est vrai que l'Europe a joué un rôle qui peut favoriser un petit peu la stratégie de Salvini d'un côté, parce que effectivement, elle n'a pas pris en compte la question migratoire jusqu'à récemment. D'autre part aussi, parce que le blocage de l'Union européenne par rapport aux mesures sociales qui ont été proposées a pu faire penser aux Italiens qu'effectivement, il y avait une volonté de ne pas permettre des solutions sociales pour le revenu des citoyens.
Alors, Alberto Toscano, j'aimerais qu'on revienne sur cette alliance possible Parti démocrate et Mouvement 5 étoiles. Mais surtout sur
okay, mais si vous permettez, je dirais moi aussi un mot sur la Ligue et sur Salvini. Donc la Ligue a eu le 6,2 aux élections européennes de 2014, le 17,4 aux législatives de 2018 et le 34,33 aux dernières européennes. C'est-à-dire que peut-être le 6,2 est un électorat fidèle, mais tous les autres s'est rajouté à la Ligue. Donc ça veut dire que le sujet clé de la campagne de la Ligue, qui est exprimée par de façon vulgaire et tout ce que vous voulez, avec tambour battant, tous les tweets que vous voulez, tout ça, mais le sujet clé est la question migratoire. C'est-à-dire, c'est un sujet qui, pour les Italiens, est un sujet mobilisateur. Bien sûr, Salvini n'a pas résolu les problèmes. Bien sûr, comme le dit justement Ludmilla, ce gouvernement n'a pas résolu les problèmes. Mais la perception des Italiens, et que le discours de Salvini, avec toute sa dimension démagogique, et permettez-moi de rajouter d'extrême droite, est un discours qui est cohérent avec des intérêts nationaux. Et en démocratie, la perception du peuple est, malheureusement ou heureusement, selon les cas, heureusement, voilà ce qui compte. Alors, avec un sourire sur cette boutade, sur l'heureusement ou malheureusement, parce qu'en démocratie, c'est ce qui compte, la volonté du peuple, on s'interroge sur l'avenir, et je réponds à votre question. L'avenir est que l'Italie a 3-4 jours pour choisir. Parce que le président de la République a dit clairement que, mardi, les partis qui sont en train de négocier pour créer un gouvernement, c'est-à-dire le Parti démocrate, centre-gauche, et les 5 étoiles, parti, à mon avis, populiste, où ils trouvent un accord pour un gouvernement où il va dissoudre le Parlement, et ça il l'a pas dit ouvertement, mais c'est clair, et convoquer des élections anticipées. Les élections anticipées en soi ne sont pas une catastrophe. L'Espagne a voté 3-4 fois en quelques années, l'Allemagne a risqué d'aller aux élections anticipées, seulement la France, elle va jamais aux élections anticipées parce qu'elle elle a des ou presque jamais, parce qu'elle a fait en 97.
Mais des élections anticipées maintenant, Alberto Toscano, ça pourrait avoir un effet quand même plutôt favorable pour Matteo Salvini.
Des élections anticipées dans le contexte actuel créeraient un lit de rose à Salvini et avec une alliance avec le parti d'extrême droite, Fratelli d'Italia, et peut-être aussi à Silvio Berlusconi. Et donc on aurait pas seulement un gouvernement de droite, chose qui est parfaitement plausible, mais un gouvernement d'une droite souverainiste et anti-européenne. Et ça serait un problème réel.
Et je rajoute d'ailleurs à ce que vous venez de dire, Alberto Toscano, que cette politique, le succès de cette politique migratoire est appuyé par un contexte économique désastreux. 5 millions de pauvres, 5 millions d'étrangers en situation irrégulière, un pays surendetté et sans croissance est l'un des moins fertiles d'Europe selon les dernières données disponibles. Mais alors, concernant ce front anti-Salvini, s'il faut empêcher donc ces élections anticipées, arrivée en septembre, qui donc, comme vous venez de le dire, est un moment propice, un lead rose, enfin, ce sera un lead rose, ces élections anticipées, avez-vous dit, pour Matteo Salvini. Est-ce que les circonstances sont aujourd'hui réunies pour une alliance Parti démocrate Mouvement 5 étoiles? Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce Mouvement 5 étoiles qui s'est dans un premier temps allié à la Ligue et qui aujourd'hui donnerait peut-être une réponse favorable à une alliance avec le Parti démocrate?
Il y a un élément commun, un intérêt commun de 5 étoiles et du Parti démocrate, et d'éviter des élections qui seraient très probablement à la faveur de la Ligue et de ses alliés. Donc, ils ont intérêt de ne pas aller aux élections. Et en même temps, comme Ludmila l'a dit tout à l'heure, c'est des partis divisés à leur intérieur, qui sont objets d'une lutte fratricide entre courants, et il est difficile de trouver un accord, notamment le point sur lequel, à cet instant précis, la négociation est en train de se trouver en difficulté, est le choix du président du Conseil, dans le sens que les 5 étoiles veulent absolument que ça soit, que le nouveau gouvernement éventuel d'alliance avec le centre-gauche soit dirigé par Conte, tandis que le Parti démocrate ne veut absolument pas qu'il y ait cette continuité à la direction du gouvernement.
Et cette non-continuité, comme vous dites, est considérée comme non négociable par Nicola Zingaretti, qui représente le Parti démocrate. Est-ce que le mouvement 5 étoiles, qui donc, je le rappelle à nos auditeurs, est un mouvement qui se dit, qui dit ne pas être un parti, qui se revendique ni de gauche ni de droite, mais milite pour une démocratie directe, Christophe Bouillot, est-ce que le mouvement 5 étoiles peut accepter les conditions qu'impose le parti de gauche, c'est-à-dire un virage économique vers plus de redistribution, un changement de politique migratoire, le fait que Giuseppe Conte ne doit pas redevenir le président du Conseil? Est-ce que le mouvement 5 étoiles est prêt à accepter tout cela?
Alors, en fait, c'est pour le moins difficile à dire. Je voudrais revenir un petit peu en arrière dans la discussion sur la probabilité très forte quand même que Matteo Salvini gagne les élections. Il faut bien voir quand même que cette séquence-là qui s'est ouverte avec cette crise politique ne lui est pas nécessairement si favorable que cela. Dans la mesure où, effectivement, les sondages ne sont pas... les derniers sondages sont un peu moins favorables que ceux qu'il avait auparavant. Et par ailleurs, il y a un problème tout simplement d'alliance, c'est-à-dire que, en fait, dans le système électoral italien, si vous voulez gagner des élections quand même, il faut avoir des alliés ou être un très gros parti. Et en fait, pour l'instant, Matteo Salvini a un seul allié qui est Frères d'Italie, qui est effectivement le petit parti post-néofasciste, dirigé par une femme, effectivement, Madame Meloni. Mais... en fait, il y a la question de cet électorat, enfin de l'alliance avec Silvio Berlusconi. De Forza Italia. Et en fait, ce qui est assez intéressant, quand ils rompent l'alliance, Salvini dit « Ah, je vais aller à l'élection tout seul ». Quand il dit « Je vais donc uniquement la Ligue qui se présente toute seule et qui veut gagner l'élection toute seule », ce qui suppose de rassembler 40% des voix, soit tout seul. Bon. Quelques jours plus tard, c'est plutôt on va quand même faire une alliance avec Frères d'Italie. Et puis finalement, si on va véritablement aux élections, il faudra absolument récupérer Forza Italia et une partie du centre-droit traditionnel, parce que sinon, on n'arrivera pas au seuil des 40%. Donc en fait, ça explique aussi l'attitude quand même beaucoup plus prudente de Salvini ces dernières heures, qui essaye de récupérer visiblement une alliance avec le M5S. Donc c'est pas si clair que ça que la victoire est assurée pour Matteo Salvini en cas d'élection. Moi je vois plutôt une élection qui peut aboutir à simplement une situation d'échec pour toutes les forces. C'est-à-dire que personne n'est la majorité. Qu'on se retrouve effectivement avec Salvini n'a pas la majorité, le Parti démocrate n'a pas la majorité, le M5S n'a pas la majorité. Et on repart pour un tour. Vous voyez, donc là c'est... Et par ailleurs, autre chose, je voudrais aussi préciser que je suis tout à fait d'accord que Salvini a fait une politique un peu factice sur l'immigration. Il parle beaucoup de bloquer effectivement des bateaux, mais en fait, pour renvoyer les gens, c'est un peu plus compliqué. Après, j'insiste sur le fait que c'est un peu ce que veulent les Italiens. C'est-à-dire qu'en fait, les Italiens, en gros, y compris les forces économiques, ont besoin d'immigration. Il y a une démographie très... Mais ils veulent pas voir les immigrés. Alors comment vous avez les immigrés comme force de travail d'un côté et pas d'immigration de l'autre? Bon, Salvini, c'est la révolution de la contraction. C'est une effectivement tout ce show anti-immigration. Il correspond bien aussi à ce que veulent entendre une grande partie de l'électorat, et en particulier l'électorat dans les parties du nord du pays, où on a besoin d'immigrés pour faire tourner les usines. Sans les immigrés, les usines du nord de l'Italie ne tournent plus.
Vous rejoignez en ce sens les propos de Ludmila Hakon il y a quelques instants qui disait que sur d'autres questions plus brûlantes encore, économiques et sociales, non pas que la politique migratoire ne soit pas brûlante, loin de là, mais Matteo Salvini n'avait pas les épaules. Qu'en est-il de la question justement économique, Ludmila Hakon? Vous parlez de la question méridionale, donc oui. Justement oui. Le fait que le sud de l'Italie est beaucoup plus sujet aux difficultés économiques.
Oui, alors le sud est tout le pays. Rappelons le rapport Svimez très récent qui montre une nouvelle immigration italienne à l'étranger. Il y a, disons-le, plus d'Italiens qui vont partir chercher du travail à l'étranger que d'immigrés qui arrivent en Italie. Donc il y a aussi un effet d'image. Les gens veulent se positionner par rapport à l'immigration parce qu'on leur répète sans arrêt que c'est le problème. C'est comme une publicité, il n'y a que ce magasin-là qui est ouvert, eh bien on va dans le magasin qui est ouvert. Si vous voulez, on ne met pas l'accent sur les vrais problèmes, les gens qui sont dans la vie...
Et c'est aussi le cas, Ludmila Hakon, je me permets de vous interrompre, est-ce que c'est aussi le cas dans les débats actuels? Parce qu'il est quand même question dans cette émission de comment sortir de cette impasse politique. Est-ce que justement, ce que vous pointez là, c'est aussi un problème qu'on retrouve ces jours-ci dans les discussions entre les différents partis politiques?
On le retrouve par exemple dans les plateformes, dans la plateforme des 10 points qui a été proposée par Di Maio, hein, qui met la question du Sud notamment tout à fait au centre. Zingaretti lui aussi a des propositions par rapport à une économie redistributive. Donc on est vraiment dans une convergence à ce niveau-là. Dans les débats, la question de l'immigration en ce moment n'est pas vraiment très présente dans les tractations de gouvernement, ni la question sociale, elle est très présente bien sûr dans les tractations, mais aussi dans la vie des gens, parce que il y a le débat télévisuel et politicien, si vous voulez aussi, hein, politique en général, dans le sens noble du terme, et puis il y a ce que vivent les gens. Et c'est vrai que les gens ont l'impression qu'effectivement l'immigration peut être un problème, mais qui écoute-t-on? Il y a des élans de solidarité extrêmement importants, et notamment dans le Sud, c'est paradoxal, ce sont ceux qui vivent le moins bien qui sont parfois les plus solidaires avec les immigrants.
Alors, parmi les autres possibilités, il y a donc cette possibilité évoquée par l'ancien Premier ministre Romano Prodi d'un gouvernement Ursula. Alors, c'est justement...
Je l'explique.
Voilà, une coalition pro-européenne avec Ursula, donc le nom de la nouvelle présidente de la Commission, mais qui paraît, vue d'ici en tout cas, et du haut de mon peu de savoir, en tout cas sur les institutions politiques italiennes, assez improbable, mais j'aimerais avoir votre regard sur la question.
Impossible. Dans le sens que il y a trois formations politiques qui ont voté au Parlement européen la confiance à Ursula von der Leyen. C'est les 5 étoiles, le Parti démocrate et Forza Italia. Et je signale que les 15 voix européennes des 5 étoiles ont été déterminants pour permettre à la prochaine présidente de la Commission d'entrer en fonction. Hein? Le 5 étoiles a été déterminant. Or, ceci dit, une coalition de gouvernement composée par ces trois partis n'a pas de sens parce que Forza Italia n'a aucun intérêt de s'allier au Parti démocrate et surtout aux 5 étoiles aujourd'hui. Donc, le problème est le contexte des probabilités sur les résultats d'élections anticipées. Je suis tout à fait d'accord avec Christophe sur le fait que des élections ne sont jamais jouées d'avance, évidemment. Mais aujourd'hui, il faut tenir compte, comme d'ailleurs Christophe a dit, de la loi électorale italienne. Cette loi électorale italienne est très particulière. Tout d'abord, c'est une très mauvaise loi électorale, mais ça, c'est notre discours. Avec le 40% des voix, on a pratiquement la certitude d'avoir la majorité absolue du Parlement. La Ligue a eu le 34, elle toute seule, aux élections européennes d'il y a 2 mois. Les Fratelli d'Italia, son allié fidèle, plus ou moins fidèle, a eu 6% et plus. Donc, déjà, les deux, théoriquement, si on rajoute un accord éventuel avec Berlusconi et la droite classique, on a théoriquement, parce qu'il faut voter évidemment, mais des conditions très favorables à la droite et à l'extrême droite. Or, dans ce contexte, il est compréhensible le fait que les autres forces politiques, qui seraient probablement, pas certainement, mais probablement, en difficulté à des élections anticipées essayent de trouver un accord pour éviter les élections anticipées. D'ailleurs, certains membres de ces forces politiques le disent de façon ouverte. Le problème est, est-ce que ces partis de cette alliance contre nature, mais en Italie, dans le contexte du Parlement actuel, toutes les alliances sont contre nature. Parce que même l'alliance 5 étoiles et Ligue étaient absolument contre nature. Ils se sont pas présentés ensemble aux électeurs. Donc, l'hypothèse à la base de cette, il y a deux hypothèses. Une est, on fait un gouvernement pour 6 mois. Pour faire la loi de finances, pour éviter qu'à partir du 1er janvier 2020, sur la base des accords avec l'Union européenne, il y ait le risque d'une augmentation de la TVA. Et ensuite, dans 6 mois ou 8 mois, au printemps, on va voter. Et l'autre hypothèse, cette première hypothèse est chère surtout à Matteo Renzi, c'est-à-dire à une composante minoritaire aujourd'hui dans le Partito Democratico, mais laissez-moi le dire, majoritaire à l'intérieur de groupes parlementaires du Partito Democratico. Autre paradoxe italien. Alors, ou on fait un gouvernement pour 6 mois, ou on fait, comme le dit le chef du Partito Democratico, Zingaretti, un gouvernement qui arrive à la fin de la législature, c'est-à-dire à 2023. L'un des problèmes fondamentaux à ce moment est celui-là.
Alors, Christophe Bouillot, est-ce que parmi tous les scénarios évoqués et par Alberto Toscano à l'instant et au cours de cette émission, il y a une possibilité qui se dessine, qui se détache plus qu'une autre est-ce qu'il y a de la visibilité sur ces prochains jours ? Sur ce qu'il va se passer au sein du gouvernement italien.
Vous me demandez de lire dans ma boule de cristal. Malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal.
En tout cas, parmi les éléments, je vous demanderai pas de me faire de la politique fiction, vraiment, mais par rapport aux éléments dont on dispose, tangibles, qui sont les alliances qui sont sur le point d'être mises en place, ce gouvernement Ursula qui n'est pour l'instant peut-être qu'une idée.
Alors, je suis d'accord que le gouvernement Ursula ou Forza Italia serait impliqué dans le jeu, me paraît une hypothèse extrêmement peu probable. On n'a pas besoin d'eux de toute façon pour faire une majorité. On peut faire une majorité avec le M5S et le Parti démocrate et quelques alliés à sa gauche. Je dois dire que la situation est vraiment d'une grande incertitude. Pour le coup, dans la mesure où effectivement les deux forces qui doivent s'allier, le Parti démocrate et le M5S, sont eux-mêmes très divisés en factions. Une partie d'entre elles veulent éviter les élections, veuillez y aller. Finalement, l'avantage quand même resterait éventuellement à Matteo Salvini, qui a l'avantage quand même d'avoir un parti relativement uni autour de lui. Car il faut bien avouer que la Ligue, contrairement aux deux autres protagonistes, se résume à Matteo Salvini. Matteo Salvini disparaît demain, mettons dans un accident de la route ou n'importe quelle circonstance malheureuse pour lui, la Ligue retombe effectivement très bas. Par contre, resterait le problème de la droite italienne, qui effectivement est majoritaire, structurellement majoritaire dans le pays, parce que parmi les gens qui vont voter, vous avez une majorité de gens qui effectivement sont âgés, ne veulent pas d'immigration, ne veulent pas payer d'impôts, et veulent que leur retraite soit garantie et que la dette publique soit garantie. Donc effectivement, de toute façon, effectivement, il y a avantage à un électorat âgé conservateur. Et ça,
plus un taux d'abstention qui paraît assez important.
Voilà. Oui, alors, et je pense que le taux d'abstention est très important. Il faut voir qu'aussi les élections européennes ont été jouées sur un assez fort taux d'abstention. Je me demande ce qui se passerait si effectivement un Matteo Salvini se présentait comme il s'est présenté cet été en voulant les pleins pouvoirs. Il pourrait provoquer quand même une réaction dans l'électorat de mobilisation contre lui, parce que quand même, les dernières élections, on voit le taux de participation électorale baisser au fil des années. Je ne suis pas sûr qu'un Matteo Salvini qui se présenterait comme le futur dictateur italien, parce que c'est finalement ce qu'il a fait cet été, gagnerait des élections à l'automne, d'autant plus que ces élections à l'automne, il faut bien comprendre que ça serait la première fois dans l'histoire italienne depuis très 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 longtemps, il me semble que depuis 1919, qu'on organiserait des élections générales à l'automne. Ça serait un phénomène d'élections anticipées. C'est un phénomène jamais vu. Donc là, véritablement, on serait dans un état d'esprit de crise. Et d'autant plus Matteo Salvini, à mon avis, a fait une erreur majeure cet été de dire « je veux les pleins pouvoirs ». Dans le contexte italien, ça réveille quand même un certain nombre de souvenirs historiques. Voilà. Même pour les gens les moins éduqués, les moins au courant de la situation, quand même vouloir les pleins pouvoirs en Italie. Bon. ça réveille beaucoup de monde.
Donc tout reste plutôt ouvert, enfin, même si on n'aura pas réussi à lire dans vos boules de cristal respectives, on aura au moins eu le mérite avec ce plateau de dessiner un petit peu les contours de cette crise actuelle et des forces en présence. Merci beaucoup à vous trois, Ludmila Hakon, Alberto Toscano et Christophe Bouillot. On remercie également à Claire Vuillot à la technique de Radio France à Lyon qui nous a permis d'être en duplex avec nous. On peut réécouter cette émission sur le site de France Culture à la page du magazine du week-end et sachez que mardi prochain, jour où le président italien devra annoncer sa décision, les enjeux internationaux de Julie Gacon reviendront sur ce sujet sur France Culture à 6h45. Un grand merci à Chloé Rossignol, Catherine Donné, Isé Sorel, Benjamin Teinturier, Amy Livala à la réalisation et Alice Sayad à la prise de son. Tout de suite les idées claires, Nicolas Martin.